Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il est complètement à droite comme ça? Il n'est pas centré? Bonsoir tout le monde. C'est une belle image, hein? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Le bel apôtre Paul, hein? Est-ce que ça lui ressemblait, non? Je ne savais pas. Je ne l'avais jamais rencontré. Alors ce soir, on est dans l'Épître aux Éphésiens. Ah ouais, les lunettes, c'est bien important, ça, hein? Des nouveaux yeux, hein? Un nouveau cœur, des nouveaux yeux. Bientôt, des nouvelles dents, un nouveau corps. Alors, Épître aux Éphésiens, nous sommes au premier chapitre, et ce soir, on va lire les versets 3 à 14. On ne traitera pas les versets 3 à 14. On va traiter seulement que les versets 3 à 6, mais... Vous allez comprendre pourquoi on va les quand même tous les lire ensemble, dans un ensemble, et puis on va y aller avec ça. On va laisser notre frère travailler avec les problèmes de la technologie, puis nous, on va lire les versets, et ensuite on va prier rapidement. Alors, l'apôtre Paul commence en disant, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Seigneur, merci de ce que nous pouvons nous réunir encore sous ton regard et partager dans ta parole quelques portions d'Écriture. Nous te demandons par ton esprit de nous bénir, de toucher nos cœurs. Et oui, comme tu sais le faire à chaque fois, Seigneur, de nous fortifier, de nous édifier et de nous faire du bien. Ta parole nous fait du bien. Tu te révèles à nous dans nos cœurs, dans nos esprits. Au travers d'elle, et Seigneur, encore une fois, nous nous attendons à ce que tu nous bénisses tous autant que nous sommes. À la grâce, à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alors, frère, on va y aller avec ça. C'est Il y a des flèches dans le bas de l'écran. Je ne sais pas si gauche, droite. Je ne sais pas si qu'est-ce que ça veut dire. OK, non. C'est beau. Et voilà. Alors, l'image que je vous ai mise en premier, eh bien, c'est une image, c'est un peintre américain vivant au Texas qui lui, il a fait beaucoup d'études dans la parole pour s'inspirer. Vous savez qu'un peintre, ça lui prend un modèle pour faire un tableau exact. Et lorsqu'il c'est pas possible d'avoir la personne, alors ils vont faire des études. Un peintre minutieux va faire des études très, très, très poussées et approfondies pour se mettre dans son esprit une image de ce qu'aurait pu être une personne. Et le tableau qu'il a peint ici, c'est l'apôtre Paul, dans les dernières années de sa vie, avant sa mort, en prison, en train d'écrire des documents à la chandelle. Et là, on ne voit pas. Ah, on le voit un peu mieux ici. Moi, je le vois, c'est encore plus coupé sur mon écran. Alors, on le voit bien. Alors, habillé pauvrement. Alors, c'est un vieillard et il est en train d'écrire des documents. Alors, pourquoi je vous ai placé cette première diapositive, c'est que l'Épître aux Éphésiens que nous commençons a été écrite par cet homme. Et c'est toujours important de savoir qui nous parle et dans quel contexte il nous parlait. Alors, c'est un vieillard qui nous parle. Et ce vieillard, imaginez-vous, alors là, on le voit, si vous voulez, un autre angle. Je trouvais les images tellement belles. Et ça, c'est une prison romaine. Alors, c'est une photo d'une prison dans laquelle l'apôtre Paul aurait pu être. OK, moi, vous voyez là, on a placé un petit meuble, là, et c'est une prison romaine, un sous-sol humide, peu éclairé. La lumière, c'est une lumière qu'on a rapportée. Alors, ici, c'est une prison, une des prisons. Beaucoup pensent que l'apôtre Paul et Apollos, hein, Silas, auraient pu être Barnabas. Paul et Barnabas auraient pu être dans une prison. Et comme ça, à Philippe, parce que, vous le savez, hein, l'épître aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon ont été écrites en même temps lorsque l'apôtre Paul était en prison à Rome. Alors ici, on voit, il y a une personne à l'intérieur pour nous montrer un peu la dimension. Vous voyez, c'est pas tellement haut, c'est resserré, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, c'est notre texte qu'on voit ce soir. Et on va s'arrêter particulièrement au verset 3, le texte, la phrase que j'ai soulignée, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, on va essayer de regarder ça en détail plus tout à l'heure et on va, évidemment, on va passer les versets 4, 5 et 6 avant et ensuite on passera le verset 3. Alors, je vous fais remarquer une autre chose. À la fin ici, l'apôtre Paul, alors c'est une première section, Éphésiens 3 à 6, et il termine avec « à la louange de la gloire ». Et cette expression-là va revenir. Alors, elle revient trois fois dans les versets. Et la raison pour laquelle que j'ai lu tous les versets 3 à 14, c'est que, peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque Paul l'a écrite en grec, cette épître, ou qu'il l'a fait écrite, c'est une seule longue phrase. À partir du verset 3 jusqu'à la fin du verset 14, ce n'est qu'une longue phrase ininterrompue. Un souffle. L'apôtre Paul est arrivé, puis d'un souffle, il a écrit toute cette phrase. Et la première partie que vous avez vue s'adresse à une personne. La partie qui est en rouge s'adresse à une autre personne. Et la partie qui est en mauve s'adresse à une autre personne. Et chacune des parties, vous avez vu, se termine avec « à la louange de sa gloire ». Alors, vous voyez comment l'Esprit guidait l'apôtre Paul, systématique, précis. Et là, je vous ai fait un petit tableau, juste pour vous montrer. Alors, la première section qu'on regarde ce soir, hein, verset 3 à 6, alors c'est le Père. Alors, l'apôtre Paul s'exprime et il a la pensée du Père dans son esprit. Et on continue avec les versets 7 et 12 qui seront traités dans d'autres semaines ultérieurement. Et là, il va s'exprimer en ayant à l'esprit le Fils. Et finalement, les versets 13 et 14, il s'exprime et là, il a l'esprit. Alors, il a la Trinité à l'esprit. Alors, c'est très intéressant quand on regarde les Écritures, ce passage avec ces remarques. Et là, c'est dommage, je vais devoir tout le temps. Mon écran est coupé, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, elle est coupée ici aussi, là. Enfin. Alors, Paul commence cette section, et Paul commence avec la forme littéraire la plus juive pour une prière connue sous le nom de Beraka, ou bénédiction. Au lieu de... Vous savez, quand l'apôtre Paul commence ses épîtres, ce qu'il fait... Hein, il s'adresse à l'Église et il va les louer pour leur foi et il va même souvent désirer qu'ils progressent dans leur foi. Mais ici, Paul, ce n'est pas ce qu'il fait. Il commence tout de suite en bénissant Dieu. Hein? Alors, c'est une bénédiction. C'est une très belle, si vous voulez, c'est une très belle littérature, la façon qu'il commence. C'est pas de la petite littérature. Alors, pour vous dire que l'apôtre Paul, guidé par l'Esprit, a vraiment, là, vous savez, c'était du beau texte, des beaux vers. C'était quelque chose de très, très, très beau, ce qu'il faisait ici. Et ayez à l'esprit la première image que je vous ai, c'est un vieillard en prison depuis longtemps et qui a souffert vous savez, là, il n'est pas dans le plus bel de son âge. Il n'est pas à 25, 30 ans. Là. C'est un vieillard emprisonné qui a été maltraité. Et là, il est en attente d'un procès. Et puis, il espère, il fait prier les chrétiens, il espère qu'il sera délivré. Mais c'est un vieillard emprisonné, restreint dans ses mouvements. Imaginez. Et là, il nous parle de cette façon. Ainsi, Paul commence, au deuxième point, Paul commence son épître en s'adressant à Dieu plutôt que de louer les Éphésiens pour leur foi. Ce passage est certainement le plus détaillé, le plus riche théologiquement de toutes les prières écrites de Paul. Ce passage est ponctué par le triple usage de l'expression « à la louange », comme je vous ai montré, « à la louange de sa gloire ». Et dans l'original, ces 12 versets ne forment qu'une seule longue phrase ininterrompue. Cette longue phrase contient en fait trois segments, comme je viens de vous le montrer, avec le tableau. Ensuite, dans la première section, Paul, comme je vous le disais, rend grâce à Dieu pour son rôle dans la prédestination. Hein? L'apôtre Paul nous convie à louer Dieu pour ce si grand salut que nous avons. Et là, en ayant la pensée du Père, alors il loue le Père de ce qu'on a été prédestiné. Donc, sauvé. Dans la deuxième section, Paul rend grâce à Dieu pour le Fils, pour son rôle dans la rédemption du pécheur par son sang. Et puis finalement, Paul rend grâce à Dieu pour le Saint-Esprit, pour son rôle dans la sécurisation. Vous savez, hein, on est scellé par l'Esprit, hein, on a les arts aussi, c'est-à-dire que cette garantie que la transformation du salut qui se fait par l'Esprit va se compléter. Alors, d'ores et déjà, le salut est commencé en nous, la transformation est commencée, là, comme l'apôtre Paul l'a dit dans d'autres épîtres. Alors, on se renouvelle dans la connaissance de l'homme nouveau et un jour, bientôt, nous allons, si c'est par l'enlèvement, ou après la mort. Si c'est par l'avènement, c'est tout de suite qu'on sera transformé, hein, en allant rencontrer le Seigneur dans les airs. Et si on doit passer par la mort, glorifier le Seigneur par une mort normale, alors on va aller en esprit trouver le Seigneur, mais on sera en attente d'un corps un corps dans la résurrection. Alors, je boite un peu avec mes mots. Ça veut sortir en anglais. Alors, je m'excuse. Là, je boite un petit peu. Alors, c'est la sécurisation de l'esprit dont on parle dans les versets 13 et 14. OK. Philémon 1. Alors, c'est en gros, là, c'est ce qu'on voit dans cette phrase qui est longue. Et on va aller dans Philémon. Venez avec moi, on va le voir, Philémon. Une épître. Vous savez, Paul est en prison. À la fin de 1, 2 Timothée, Tite, Philémon. Alors, Philémon, premier verset, nous dit, « Paul, prisonnier de Jésus-Christ. » C'est les Romains qui l'ont mis en prison. À cause de tout ce qui est arrivé, vous savez, dans les derniers versets, dans les derniers chapitres des Actes des Apôtres, hein, à cause des Juifs qui en voulaient à l'apôtre Paul. Hein, il a été devant le roi Agrippa et Félix. Et puis là, hein, ils ont fait le voyage. Vous savez, vous vous rappelez ces versets dans les Actes. Et là, Paul a été envoyé, est arrivé à Rome, emprisonné, et il attend. Et là, Paul dit « prisonnier de Jésus-Christ ». Alors, juste pour vous montrer qui est en train de nous écrire ces textes qu'on regarde. Au verset 9, Philémon 9, « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Il est en train de verser son cœur à Philémon. Et puis le verset 22, il dit, « En même temps, il parle à Philémon, « prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Alors, il espère être rendu. Philémon, alors là, ici, vous avez, on appelle les épîtres comme Éphèse, Philippe, Colossiens, Philémon, les épîtres que nous avons. Alors, on les appelle « prison epistles ». Puis, ça serait en 62, dans ces années-là. Imaginez Paul, parce que Paul était en prison à Rome, et il recevait, vous savez, quelques frères avaient la liberté d'aller et de venir et de voir Paul et de parler avec lui. Et il avait des comptes rendus, si vous voulez, des églises partout où Paul avait été, et même des églises où est-ce que Paul n'avait pas été, mais il entendait qu'est-ce qui se passait, ce mouvement, cette foi qui était grandissante et les églises qui étaient naissantes et tout ce qui se passait. Et Paul entendait, avait des feedbacks, si vous voulez, de ce qui se passait. Et il avait des églises à cœur. Et de ses compagnons, alors vous voyez ici, alors Tychique, qui lui était d'Éphèse, Épaphrodite de Philippe, Épaphras de Colosse, et Onésime, qui était aussi de Colosse. Mais ces deux-là étaient de Colosse, mais ici, Philémon, ce n'est pas une église, c'est une personne. Et Onésime, vous le savez, c'était un esclave qui appartenait à Philémon. Alors, Paul, les érudits nous disent que ces quatre épîtres ont été écrits dans une même plume, si vous voulez, l'épître aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, c'est-à-dire que c'est dans une même courte période de temps que l'apôtre Paul. Alors, il avait toutes ces mêmes pensées à l'esprit, et quand on étudie hein, l'épître aux Éphésiens, Colossiens, et surtout on se rend compte comment ça se ressemble, on voit c'est différent, mais on voit hein, qu'il parle de l'Église et du corps de Christ, et qu'il parle aussi de la tête de l'Église. Alors, on voit que comment est-ce que le Saint-Esprit a guidé Paul dans sa pensée. Et Paul a envoyé, imaginez-vous, on partait de Rome et on s'en allait en Grèce, l'autre bord de la Grèce, pour aller à Éphèse. C'était un voyage énorme, périlleux à l'époque, hein, en bateau. Vous savez, à l'époque romaine, là, voyager des milliers de kilomètres, ce n'était pas comme aujourd'hui. Là. Alors, une seule personne partir pour aller transmettre des lettres, c'était pratiquement très périlleux, c'est très dangereux. Alors, fort probablement, ces quatre gaillards, hein, fort probablement, ces quatre gaillards sont partis ensemble dans ce voyage pour aller remettre les lettres dans leur communauté. Et aussi, on nous apprend, Paul, il dit dans la lettre aux Philippiens, entre autres, que lorsque cette lettre sera lue, hein, vous l'enverrez aussi dans une autre église, et l'autre église vous enverra sa lettre, de sorte que tout le monde puisse lire les Écritures. Alors, on voit les collaborateurs de l'apôtre Paul qui étaient près de lui en prison et qui ont, si vous voulez, ils ont assisté à l'édition de ces lettres, si vous voulez, et ils ont été ensemble les porteurs de ces messages, messages incroyables pour chacune des épîtres. Alors ici, le verset 4, 5 et 6, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Alors, j'ai quelques images, diapositives après, juste pour vous montrer, c'est quand même intéressant, mais avant la fondation du monde, la Genèse nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais juste entre au commencement, Dieu créa les cieux. Alors, entre ces deux mots, Dieu créa les cieux. Ce que le verset nous dit, c'est que avant la fondation du monde, avant même que Dieu crée les cieux et la terre, on ne peut pas comprendre ça. C'est inimaginable. Mais déjà, Dieu, au début, quand il a par sa parole, hein, quand il a commencé à créer le monde, l'univers et la terre, déjà, imaginez, déjà il avait, comme pour ainsi dire, déjà toute vue la cassette au complet jusqu'au bout. Et il savait qu'est-ce qui allait se passer. Et il savait qu'au bout de la cassette, l'autre bout, dans l'autre éternité, il savait que nous tous, on en ferait partie. Alors c'est incroyable. Quand on pense à ça, avant même que tout soit créé dans notre univers, Dieu nous avait élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, je reviens avec 4. Changement de nature. Alors, Dieu nous a élus avant la fin pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. On a chanté tout à l'heure, notre frère nous a conduit dans un cantique, « Saint, saint, je veux être saint. » On le chante, pas banalement, mais on le chante sans vraiment tout comprendre. Le papillon, la chenille, ça vous dit quelque chose? Chenille, papillon, il y a eu une métamorphose. La résurrection, c'est une métamorphose. Lorsque le Seigneur Jésus, sur la montagne de la transfiguration, il était transfiguré, c'est une métamorphose. En grec, le mot métamorphose vient de ça. Métamorphe. C'est ce qui se passe avec nous. Depuis que le Saint-Esprit est venu habiter en nous et la transformation est commencée, la métamorphose est commencée. On change de nature. Ma femme, qui me donnait un cours de physique hier, on parlait avec Émile. Et puis, lorsqu'on prend de la glace et qu'on la tire dans le feu, elle devient eau. Mais elle ne change pas de nature. Elle ne change pas de nature. Changer de nature, il faut que les propriétés de l'entité changent Et c'est ce qui se passe avec nous. C'est pas vrai? Depuis que le Saint-Esprit est en nous, depuis qu'on est la possession de Dieu, il y a un changement de nature qui se produit. Et Dieu va nous déclarer, c'est comme ça que Dieu va dire, va employer un mot tel que « saint ». Parce qu'on est en train de devenir à lui ressembler, mais c'est au travers du Fils que cela se fait, on le sait bien, parce qu'on est encore des pécheurs. Et si on meurt tout de suite, on s'en va trouver le Seigneur, pas à cause du Maître, à cause de ce qu'il accomplit, on le comprend, mais plus tard, lorsque le salut va prendre forme à l'enlèvement ou à la résurrection, alors là, on sera parfaitement saint à la stature de Christ. Et la métamorphose sera terminée. Vous comprenez? Alors, ce changement de nature est déjà commencé. Alors, c'est... Les Écritures nous disent, essaye de changer un zèbre en éléphant. Essaye de prendre un tigre puis de le mettre en mouton. Ça ne marche pas. T'as beau l'élever, comprenez-vous? Changement de nature. Alors, pour vous dire que ce n'est pas peu dire ce que Christ a fait en nous par son esprit. Et preuve à l'appui, allez loin dans votre vie, dans votre cœur. Moi, je peux retourner là, il y a 28, 30 ans. Et prendre une belle photo. Clic! À quoi est-ce que je ressemblais? Tout le monde se mettrait à rire dans la salle. Vous seriez découragé, les gens. Les adultes auraient peur. C'est lui qui nous parle aujourd'hui. Métamorphose. Changement de nature. C'est ce que Dieu a fait. Ça, c'est moi, mais vous aussi. Hein? Changement de nature. La puissance de Dieu. Choisi pour le présent. Et quand, vous savez, avant la fondation du monde, c'est comme si Dieu nous dit, là, dans la prédestination, là, choisi pour le présent et le futur, pour les choses qui concernent Dieu. Le monde n'était même pas encore commencé. Que Dieu nous avait déjà choisi, parce qu'il, c'est comme, il voyait à l'avance. C'est pas qu'il fait du favoritisme, c'est que, avant même de créer le monde, il savait que, dans toute cette histoire humaine qui allait suivre son cours, des âmes humaines allaient se tourner vers le Dieu créateur de ce monde. Pour recevoir la vie et pour vivre une relation d'amour avec ce Créateur-là. Alors, c'est ce que ça veut dire. Choisi pour le présent, hein, quand il a commencé, et pour le futur. Le verset 5. Aide ses enfants d'adoption. Et ça, on passe par-dessus ça souvent. Dans les Évangiles, le Seigneur, il nous dit qu'on a été greffé à l'olivier, un olivier pur. Hein? L'olivier dans le jardin qui produisait. Et là, nous, un arbre sauvage, pratiquement mort, a été ramassé. Et puis là, il a tranché l'olivier qui était en vie. Hein? Puis là, la sève a coulé. Et là, il a pris cette branche morte. Et puis, il l'a mise après l'olivier vivant. Et là, il a attaché la branche. Et là, la branche a commencé à se transformer. C'est notre histoire. On a été greffé à l'olivier. Et l'autre image, un orphelin adopté. Un orphelin, moi puis Jocelyn, hein, on parle de l'orphelinat en Ukraine. Bateshka, Bashtenka. Les images, rappelez-vous les images des petits orphelins, tous crottés, là, puis tous pauvres. Ah, hein, ça nous brise le cœur. C'est terrible, hein? Ça nous brise le cœur. Mais aux yeux de Dieu, c'est ce qu'on attend, des orphelins, adoptés par un père dans une bonne famille. Hein, on voit ça souvent, des belles images, des petits-enfants, des pauvres, des démunis. Puis là, une bonne famille, là. Comprenez, c'est quoi une bonne famille? Une bonne famille, là, stable, unifiée, l'harmonie, l'amour, le respect. Le bonheur, la joie. Et là, hein, c'est cette famille-là, c'est le père et la mère qui ont décidé d'adopter cet enfant. C'est ça qui nous... C'est notre histoire. C'est ce qu'on est. On est rendu dans une bonne famille. Et finalement, Dieu a décidé de faire du bien avant même qu'ils existent à des pécheurs perdus et condamnés. Avant même que le monde soit créé, Dieu avait déjà décidé. Il avait déjà décidé que ceux qui vont se tourner vers lui, ils vont avoir tout un cadeau. Ils vont commencer à le développer de leur vivant, mais il va prendre toute son ampleur qu'à la résurrection. Alors, c'est ce que Dieu a décidé de faire pour nous. C'est ce qu'on voit dans ces versets 4, 5 à 6. Et finalement, 6, sa grâce, la grâce de Dieu. Des frères nous disaient que la miséricorde de Dieu, c'est de ne pas nous punir comme on mériterait d'être puni. L'ex-colonel Russell Williams, tout le monde a entendu parler de lui. Et il est dans un endroit bien approprié pour lui. Et dans certains pays, encore aujourd'hui, on aurait fait pas moins que du steak haché avec. Tellement ces crimes sont horribles. Mais spirituellement, nos crimes sont horribles. Et sont tellement horribles que pour un Dieu comme notre Dieu créateur, il y avait une seule solution, sans miséricorde. L'enfer, l'étang de feu, n'a pas été créé pour les hommes, pour l'être humain. L'étang de feu a été créé pour les anges déchus. Parce que les anges déchus, étant puissants comme ils étaient, ça leur prenait une place pour être contenus et être punis. L'âme humaine n'était pas supposée d'aller dans ça. Mais malheureusement, c'est la seule place appropriée pour un pécheur non converti, non sauvé, un pécheur non régénéré. C'est sa seule place. Et ça, c'était notre place. C'est là où est-ce qu'on devait aller, nous. Ça, c'est s'il n'y a pas de miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu, c'est qu'on n'ira pas là. On n'ira pas là parce que Dieu a décidé, dans sa miséricorde, de nous accorder sa grâce. Et sa grâce, le frère continuait en disant, la grâce de Dieu, c'est de recevoir des cadeaux, puis des cadeaux, puis des cadeaux qu'on ne mérite pas du tout. Puis d'en recevoir beaucoup plus qu'on mériterait d'en recevoir. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Le salut que nous avons est si considérable. C'est de recevoir l'inattendu, l'incommensurable et l'impossible à recevoir. C'est ça le salut que nous avons, frères et sœurs, et c'est ça qu'on doit considérer. Le salut que nous avons en Christ, ce n'est pas juste un trio chez McDonald's. Quand on a faim, quand on a envie de quelque chose, on va se le chercher, se le procurer, c'est important, puis on en a envie, puis on le savoure. Mais ce n'est pas ça le salut que Christ nous a acquis. Il est tellement considérable qu'on est obligé de... C'est juste trois mots que j'ai utilisés, mais on pourrait en utiliser comme un d'autre. Inattendu, incommensurable et impossible à recevoir. C'est ça le salut que Christ nous a acquis. Un clochard orphelin ne reçoit pas la position du prince dans le royaume. C'est ce que vous et moi, on a reçu. Un clochard orphelin, ça ne partage pas le royaume avec le Père en tant que prince. Et c'est notre place. Alors, voyez-vous, avant même, je trouvais que c'était une belle image, avant même que tout soit créé, au commencement, il n'y a rien de... Ben, l'univers est là. Dieu crée les cieux et la terre. Et regardez, je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, on priait avec Gaston. Gaston nous disait, un Dieu si grand, mais si grand, puis on est si petit. Les Écritures nous disent que le Seigneur Jésus pèse les montagnes au crochet, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est grand. On ne peut pas s'imaginer. C'est juste une petite image pour essayer de nous faire comprendre jusqu'à quel point Dieu est grand. Il est puissant et il nous fait participants de cette grandeur. Et finalement, le verset 3, « Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, cette expression de tout dans les lieux célestes, ça revient dans l'Épître aux Éphésiens à 5 reprises, mais c'est la seule place où est-ce que l'apôtre Paul prend cette expression et la place dans le Nouveau Testament. Alors, c'est significatif. Dans les lieux célestes. Il faut se rappeler que l'apôtre Paul a été amené au troisième ciel. Il dit, il a vu, il a entendu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme d'entendre. Et certainement, l'apôtre Paul avait, dans les lieux célestes, comment ne pouvait-il pas avoir ses pensées, ses images dans son esprit, parce que lui-même, il y est allé. Et évidemment, cette dimension, il semble qu'elle fasse référence à la dimension du troisième ciel dont parle Paul dans 2 Corinthiens 12, 2, comme je viens de le dire. Le monde invisible pour nous, pour le moment du monde, où les anges de Dieu et les anges déchus se font la guerre. Il y a une guerre entre Satan, ses anges déchus, et Dieu et les anges. Hébreux 2, 3, un si grand salut. Alors ça revient dans Hébreux. Comment échapperiez-vous en négligeant un si grand salut? Alors, l'apôtre, qui a écrit l'apôtre aux Hébreux, rappelle aux Juifs que s'ils refusent ce si grand salut en Christ, comment échapperiez-vous si vous négligez un si grand salut? Un si grand salut. Et en 1 Corinthiens 6, 20, l'apôtre Paul nous dit un grand prix. À un grand prix. Sachez que le salut qui vous a été offert a été acquis à un grand prix. Alors, c'est une mise en garde pour ne pas le négliger. 1 Corinthiens 6, 19. Et là, je veux passer quelques temps ici sur de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On est béni. Dieu, le Père, nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et là, j'essayais de penser à toutes ces choses. Vous savez, 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Ce n'est pas une blague, là. Notre corps est bien plus que notre corps. Vous savez que notre personne, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 17, « On reçoit des dons spirituels pour l'édification. » du corps de Christ qui est l'Église. On reçoit des dons spirituels. La résurrection, on en a glissé quelques mots, la résurrection, corps céleste. Pensez à ça, la résurrection. On va ressusciter à la stature du Maître. On va posséder un corps comme le sien. Un corps indestructible. Le Seigneur apparaissait, les portes et les fenêtres étant fermées. Il pouvait marcher sur les eaux. C'est incroyable, le corps de résurrection qu'on va vêtir tantôt. Encore un peu de temps. L'apôtre Paul, il dit, « Je suis dans cette tente. » Une tente, c'est fragile. Il était un faiseur de tente, l'apôtre Paul. Et il compare son corps, c'est un vieillard usé. Il dit, « Cette tente, encore un peu dans cette tente, c'est fragile. » Mais tantôt, lorsqu'on va vêtir nos corps de la résurrection, ça ne sera plus une tente. Ça va être plus qu'un fifouille. 2 Corinthiens 12, le troisième ciel où Paul est allé. Paul a vu et entendu des choses. C'est ce qui nous attend. Galates 2, 20, il continue, l'apôtre Paul, il dit, « Christ vit en moi par l'Esprit. » C'est quelque chose. Il faut réaliser le salut que nous avons. C'est trop facile de passer à côté de tout ça. Colossiens 2, 3, tous les trésors de la richesse et de la connaissance sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Tous les trésors de la richesse et de la connaissance. Savez-vous comment est-ce qu'il y a de doctorats sur la terre? Moi, je ne le sais pas. Je pense que personne ne le sait, il y en a trop. Des doctorats, des PhD, là, des cerveaux. Là. C'est incroyable comme est-ce qu'il y en a. La connaissance, il y en a, c'est incroyable. Et tout ça, ce n'est qu'une goutte. Ils ne sont même pas capables de faire un petit brin d'herbe encore. Pensez-y comment est-ce que le Seigneur Jésus est pourtant, hein, il est en nous. C'est notre maître. Tous les trésors, co-héritiers. Tout à l'heure, je parlais, un clochard orphelin n'hérite pas la deuxième place du royaume, mais c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. On est co-héritier avec Christ. Christ est héritier de Dieu le Père, mais il nous dit que nous, ses frères, ses sœurs, il nous appelle frères, sœurs. Nous sommes son épouse chérie et on va co-héritier avec lui. 1 Thessaloniciens, l'enlèvement. Ça, c'est enlevant, l'enlèvement. Je ne sais pas si on va le vivre, mais on en rêve. Hein? Qui n'a pas rêvé de l'enlèvement? On aimerait donc ça, l'enlèvement. Vive ça. 2 Pierre, nouveau ciel, nouvelle terre. Assis dans les premières rangées, on va voir le Maître nous faire tout qu'un spectacle. Créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre sous nos yeux. On sera là. Les noces de l'agneau, dans l'Apocalypse, les noces de l'agneau. Waouh! C'est la guerre, la destruction, la colère de Dieu s'abat sur la terre. Et nous, on est aux noces de l'agneau. C'est incroyable, aux noces de l'agneau. Le millénium, on va venir régner pendant 1000 ans sur cette terre pour arrêter cette guerre qui détruirait tout le peuple juif. Le Seigneur revient, il pose son pied sur Golgotha, la montagne se sépare en deux, on est avec lui, on vient régner avec lui. L'éternité avec Dieu, le Père lui-même. Apocalypse 21 nous dit, Dieu lui-même sera avec eux. Dieu, le Père lui-même sera avec nous. Jérusalem céleste, la ville Jérusalem qui descend auprès de Dieu et qui descend. Jérusalem céleste, la ville dans laquelle on sera. Jean 5, 24 nous dit, la vie ne s'arrête pas. Pensez-y, là, quelqu'un qui n'est pas sauvé, là, tantôt, il meurt. C'est fini. On sait que dans l'éternité, il ne peut pas... On sait que, c'est-à-dire, la vie n'arrête pas comme les athées pensent. Là. Tu sais, là, comme un brin d'herbe. Un brin d'herbe est mort, il n'existe plus. C'est pas ça qui arrive. On le sait que ceux qui sont sans Christ vont aller dans les ténèbres en attente du jugement. Ils vont passer l'éternité dans les ténèbres. Mais c'est... De savoir que tout le monde, hein, a la pensée de l'éternité en lui. Et on entend souvent les gens dire si on pouvait vivre éternellement. Hein? Les gens qui arrivent à 80 ans, il y a beaucoup, hein, des personnes qui sont en moyen, qui sont riches et qui sont pas trop malades, qui sont en pouvoir, ont beaucoup de vedettes, beaucoup de politiciens, on les entend tous, ils aimeraient tant continuer à vivre. C'est pas qu'on n'aime pas vivre, nous autres non plus, mais comme l'apôtre Paul. Hein, mourir, mais un gain, puis on a-tu hâte? Si l'enlèvement pouvait arriver aujourd'hui, si on a hâte de prendre ses corps de résurrection, etc. C'est pas qu'on ne veut pas vivre, c'est qu'on sait que le meilleur reste à venir. Mais pour, hein, alors, la vie ne s'arrête pas. On a une vie éternelle. Dans l'Apocalypse, on nous parle de l'arbre de vie qui était dans l'Éden, mais qui va se retrouver aussi à la fin. Il va être là, l'arbre de vie. Et finalement, les bénédictions aux églises. Dans Apocalypse 2 et 3, l'apôtre Jean nous parle de toutes sortes de bénédictions. Hein? À chaque église, vers la fin, il dit, « Et toi, si tu as été fidèle, tu recevras. » Et tout au long, il y a des bénédictions. Entre autres, un caillou sur lequel on aura un nom nouveau. Alors tout ça, frères et sœurs, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors, toute bénédiction spirituelle, là, on vient d'en énumérer là, quelques-unes. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on n'a pas le temps d'énumérer, mais il y en a d'autres. Alors, ce salut, ce si grand salut que nous avons, il est si considérable. Alors que l'apôtre Paul nous dit, béni soit le Dieu et Père. Et c'est la conclusion. Le verset 3 nous dit, le mot béni est eulogetos. En grec, il signifie dire du bien, faire l'éloge de, célébrer. cet adjectif n'est utilisé que pour Dieu dans les Écritures, quand l'apôtre Paul ou les autres apôtres utilisent béni soit Dieu, ce n'est utilisé que pour Dieu le Père. Quand on parle de l'homme, c'est plutôt heureux, hein? Heureux soit l'homme, mais c'est un autre mot. Alors, frères et sœurs, ce qu'on a à faire, c'est de bénir Dieu pour ce si grand salut que nous avons. Et j'ai prénommé et baptisé les portes en arrière, les portes qui sont ici qu'on va traverser tout à l'heure, là. Je les ai baptisées les portes de l'oubli. Et vous savez pourquoi je les ai baptisées les portes de l'oubli? Parce que lorsqu'on traverse ces portes, on oublie. Ça ne prend pas long, là. On n'a même pas fini de faire la descente. Et on a oublié. Et lorsqu'on est ici, dans ce local, on est béni. On pourrait dire qu'on est à notre meilleur parce que le Seigneur nous parle par son esprit, parce qu'on partage les Écritures, on chante ensemble, on adore. Et lorsqu'on traverse ces portes, souvent, on oublie. On oublie ce si grand salut que nous avons. La richesse de ce si grand salut. Père, notre prière tous ensemble, c'est que tu nous aides à considérer, comme l'a dit les Écritures, considère que tu as été choisi par Dieu. Considère que Dieu a pris ce si grand salut et qu'il te l'a donné. Et que maintenant, il nous appartient. Seigneur, en traversant ces portes, en croisant le seuil, rappelle-nous de ne pas oublier cette semaine, de bénir, même dans la difficulté qu'on se trouve, même dans la détresse, dans la vieillesse, la maladie, dans l'insécurité, ce grand salut, Seigneur, que nous avons, ne nous sera jamais enlevé. Et il ne fera que prendre que de l'ampleur et de la beauté. Seigneur, sois avec nous pour nous le rappeler et afin qu'on puisse faire monter de la louange, de l'adoration et te démontrer de la reconnaissance dans nos vies à cause de ce si grand salut qui est considérable, qui est beau. Seigneur, on a juste regardé quelques brides de ce si grand salut, mais nous savons tous que lorsque ça fera qu'une seule seconde qu'on sera dans la résurrection, Seigneur, on va avoir le souffle coupé. On va avoir le souffle coupé de voir toute cette grandeur, de voir cette beauté, de voir cette richesse du salut qui est nôtre et qui va perdurer et durer plus que toute l'éternité. En ton nom précieux, Seigneur. Amen.